Partie 1. La première fois qu'on s'est parlé avec Arnaud, il menaçait d'empêcher la parution d'un article que je venais d'écrire sur la prison. J'avais réussi à le convaincre de laisser couler, et avec le temps, il était devenu une source, quelqu'un en qui j'avais confiance, et qui, je crois, avait confiance en moi. Arnaud travaillait à la direction de l'administration pénitentiaire. Ce jour-là, un matin de septembre, je quittais tout juste le journal qui me publiait depuis 6 ans. Quand j'ai lu son nom sur l'écran de mon téléphone. Les violences faites aux femmes, c'est un truc qui t'intéresse? La question n'appelait pas autre chose qu'un oui, mais la vérité, c'est qu'en 10 ans de journalisme, je n'avais pas écrit une ligne sur le sujet. Pas une brève sur le sexisme au travail. Rien sur les frotteurs du métro. Rien non plus sur le harcèlement de rue, le viol, l'inceste, les violences conjugales. J'aurais pu me défendre en prétextant que j'étais sur d'autres fronts, mais j'étais tout simplement passé à côté. J'ai quitté le siège. M'a dit Arnaud. Je suis à Lyon maintenant, au service de probation et d'insertion. On organise des groupes de parole pour les violents conjugaux. Des mecs condamnés pour avoir frappé leur femme et qui se retrouvent 2 heures le vendredi pour discuter. Discuter de quoi? De ce qui cloche chez eux. Pourquoi ça les déborde? Pourquoi ils récidivent? 10 séances sur 5 mois. Tu veux en être? Un groupe de parole. En raccrochant, j'avais l'image des réunions auxquelles se rend Edward Norton dans Fight Club. Un truc qui ressemblait aux alcooliques anonymes. Une douzaine de types assis dans une pièce sans âme, et le protocole avant de vider son sac. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je suis alcoolique. Bonjour Mathieu. Sauf qu'ici, ça donnerait bonjour, je m'appelle Mathieu et je frappe ma femme. J'ai soudain pris conscience que je ne l'avais jamais entendue, cette phrase. Je frappe ma femme. J'en touchais 2 mots à Sonia Kronlund, une productrice de France Culture. En mettant l'accent sur cet aveu. Si elle me filait un micro et un enregistreur, elle serait la première à le diffuser sur son antenne. Elle a eu l'air d'hésiter avant de me faire suivre le mail d'une auditrice qui lui avait écrit le matin même. Les boîtes de réception des médias nationaux débordent d'histoires d'anonymes persuadés que leurs problèmes sont à même de faire trembler la République. En général, il est écrit « urgent » ou « scoop » dans l'objet du mail. Celui-ci était différent. Quelque chose dans le ton laissait transparaître une grande colère. Mon histoire témoigne de l'acidité du système judiciaire. À l'heure où beaucoup d'hommes déclarent avoir peur de la chasse aux sorcières avec la vague MeToo, il me semble qu'il reste encore pas mal de marge. L'autrice de ces lignes s'appelle Cécile. Elle a 31 ans. Elle travaille à mi-temps dans une épicerie pour payer ses études. Elle me donne rendez-vous un dimanche après-midi, à Montreuil. Et quand j'arrive, je la trouve devant le rideau de fer d'un café. Les poings fourrés dans les poches de son imper. Elle retire son bonnet, dévoilant une chevelure très noire, brillante, et me tend une main osseuse que je serre en essayant de sourire. J'ai un Agra en bandoulière, un vieil enregistreur relié à un micro violet, estampillé France Culture. Coller un Agra sous le nez d'une femme qui hésite à vous raconter comment elle s'est fait casser la gueule n'est pas le meilleur moyen de la mettre à l'aise. On marche à travers la ville, dans cette fausse normalité qui précède les interviews, à la recherche d'un endroit pas trop bruyant. Et je sens qu'elle est tentée de s'arrêter pour me dire « Non, désolé, je n'aurais pas dû. En fait, je ne veux plus le faire. » On finit par trouver un café. On s'installe sous le miroir, le plus loin possible des piliers de comptoir. Elle commande un coca, et en mélangeant les glaçons avec la rondelle de citron, elle lâche. Ça a commencé parce que j'ai dit à mon copain que je l'avais trompé. « Comment il s'appelle, votre copain ?» Julien. Cécile s'était retrouvée avec un choix à faire, entre l'option du silence et celle du « il faut que je te dise quelque chose ». Elle avait choisi la vérité et vu son couple s'abîmer. Ça faisait un mois qu'on vivait dans une ambiance merdique. Le 2 avril, il est allé travailler. Il bosse dans la vidéo. Et c'était une journée où je m'étais dit « il faut faire en sorte que les choses s'arrangent ». Donc j'avais acheté des fleurs et je m'étais mise en cuisine. Je n'avais pas eu de nouvelles. Ce qui n'est pas son style. Et vers 20h, il est rentré. Il avait bu. Il s'est mis à me parler très mal devant son pote. Julien vit en colocation avec Ben, un ami d'enfance. Pour éviter de se donner en spectacle, et pour fuir le conflit, Cécile se réfugie dans la chambre. Mais Julien la poursuit en l'insultant. Sale pute, salope. Tout y passait. Je ne répondais pas. Je me disais qu'il allait se défouler encore un moment et que ça s'arrangerait. Elle pense à ses entretiens d'embauche du lendemain. Et à la promesse qu'elle s'est faite de se coucher tôt pour avoir l'air en forme devant les recruteurs. Je minimisais le conflit. Mais au bout de 10 minutes à me faire traiter de pute, je l'ai poussé et je l'ai giflé. Là, dans sa tête, il y a un truc qui s'est enclenché. Ok, no limit. Elle ne se souvient pas de tout, mais elle sait qu'elle était assise au bord du lit quand le premier coup l'a atteinte au visage. Je me suis retrouvé par terre. Il me jetait des trucs. Des objets me tombaient dessus. Ensuite, il m'a fracassé la tête contre le mur. J'ai réussi à rejoindre le salon pour alerter son collègue qui regardait un film sur l'ordi. Je lui ai dit « Ben, là faut que tu viennes, c'est grave. » Il s'est levé. Il a fait semblant de retenir Julien pendant peut-être 3 minutes. Puis ça a recommencé. Des coups de poing, des claques énormes. Il m'a traîné par les cheveux sur le parquet. Pendant 45 minutes, une mi-temps de football, Cécile se fait tabasser sans discontinuer, jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'enfuir dans les escaliers. Son voisin, un flic, l'intercepte. Il m'a dit « Je connais le sujet, il faut que tu portes plainte, sinon il va recommencer. À partir d'aujourd'hui, comprends bien que c'est fini entre vous. Il ne faut plus jamais que tu y retournes. » Vous avez répondu quoi ? Ça faisait pas mal d'infos à encaisser. J'avais l'œil qui devenait bleu, je pensais à mes entretiens et je me rendais compte que j'allais être défiguré. Je ne sais pas combien de temps je suis resté chez lui, mais au moment où j'en suis sorti, j'ai reçu un message de Julien. « Je t'aime. Je suis désolé. Ne pars pas. » Cécile fait une pause pour boire à sa paille. La machine à café siffle dans son dos. À la plonge, un mec joue un concert d'ACDC avec des couverts et des assiettes. Ça m'inquiète pour le Nagra. Les types comme moi qui ne connaissent rien à la prise de son finissent toujours par se faire engueuler au montage parce qu'ils ont ramené une discussion super intéressante et totalement inexploitable. Je pousse le micro sur la table. Vous avez porté plainte ? Je voulais, mais j'en étais incapable. Au 3e jour, ma mère a senti que je n'allais pas y aller, alors elle a posé sa journée. Au commissariat du 15e, c'était plein de dames super chic, avec des yeux au beurre noir. J'étais clairement pas la seule avec un cocard. Vous êtes reçue par un policier ? On peut se tutoyer ? On a le même âge. J'acquiesce. Elle souffle un « merci ». Et précise que le flic était un homme. Je ne lui raconte pas tout. Je sais que c'est super chaud pour Julien, donc je ne parle pas de la soirée avec mes copines où elle a déboulé pour tout casser. Je ne parle pas du fait qu'il a marché sur mon visage, qu'il m'a tiré par les cheveux en me traînant sur le sol. Je minimise. Cécile écrit à Julien pour l'informer qu'elle vient de porter plainte. Il ne s'y attendait pas. Terrorisé à l'idée de se retrouver en prison, il la supplie de faire machine arrière. Leurs amis ont tous la même réaction. Quand même, ta plainte, c'est grave pour Julien. Il pourrait prendre du sursis. Maintenant, s'il fait la moindre connerie, il risque la tôle. Cécile hallucine. Comment ça, s'il fait la moindre connerie? Mais l'idée, c'est qu'il n'en fasse plus, non? 3 mois passent, sans nouvelles. Puis elle reçoit un coup de fil d'une femme travaillant au commissariat du 19e. Monsieur a porté plainte contre vous. Je vais voir cette dame, et dans l'ascenseur bondé qui mène à son bureau, elle me parle comme si j'avais tabassé Julien. Sur le moment, je ne réponds rien, persuadé qu'elle doit se tromper de dossier. Elle me fait asseoir dans son bureau ouvert aux 4 vents, avec ses collègues qui viennent lui raconter la dernière blague entendue à la machine à café. Au milieu de tout ça, j'essaie de lui expliquer comment je me suis fait casser la gueule. Et une fois que j'ai terminé, elle me dit « Je dois organiser une confrontation avec votre copain. Vos versions divergent trop. » Et en effet, les versions divergent. Car dans sa déposition, Julien dépeint Cécile en folle furieuse qui se serait jetée sur lui. Il nie l'avoir frappée. Il parle de « violences involontaires ». Tout ça dans un dossier vide, puisqu'il a déposé plainte 3 mois après les faits. Il y avait quoi dans ton dossier à toi ? Des photos de mes bleus, de mes bosses, prises par le médecin de l'Institut médico-judiciaire. J'avais un énorme cocard aussi. Les ITT physiques, c'était 5 jours, et psychologiques, 10 jours. Mon dossier a été géré par un élève de 3e en stage d'observation. Je vois pas d'autre explication. L'incapacité temporaire totale, ITT, correspond à la période, évaluée par un médecin, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité de mener sa vie de tous les jours. Le jour de la confrontation, Julien se présente accompagné d'une avocate. Cécile se souvient avoir pensé « Qu'est-ce qui motive une femme à défendre un mec comme lui ?»